Les voies de service, mercredi le 12 décembre 2018. Et bonjour tout le monde et bienvenue à Vis du mercredi 12 décembre et je suis en compagnie de Serge Bradet.
Bonjour, bonjour.
Vous allez bien aujourd'hui?
Très bien.
Cette belle journée froide mais ensoleillée
oui.
de décembre.
Oui.
Et aussi de Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour messieurs, bon matin.
Bonjour. Bon matin. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Serge?
Savez-vous que je viens juste de découvrir quelque chose en faisant un petit calcul?
Oui.
Noël, c'est le 25 décembre.
C'est pas long à calculer, ouais. ça. Oui, on avait...
On est le 12.
Oui.
25 moins 12, ça fait 13.
Oui.
13, c'est pas un chiffre chanceux.
Bon,
on est pas,
mais
est. C'est pas un vendredi, on
ça
est correct.
Est.
Ah, c'est ça, ben, je vais vous parler, pour nous mettre, il faut être dans l'atmosphère des fêtes.
Oui.
Les 25 meilleures chansons de Noël des 25 dernières années.
Des 25 dernières
ouais.
années, OK. Donc, il y en a peut-être
choix,
des très bonnes, mais on les entendra pas parce ouais, qu'elles sont ouais. plus vieilles.
Okay. On va faire des découvertes. OK. Avec la collaboration de Jean-Sébastien, évidemment, qui va nous trouver ça.
Et moi, je vais vous parler de partitions musicales qui sont célèbres et qui mm-hmm. sont très en demande en première partie. Et aussi, je vais vous parler d'un concert qui a eu lieu dans le métro de Montréal ce week-end
ah,
dernier.
Ah oui, oui.
Donc, un article que j'ai trouvé sur le site resmusica.com, que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça un peu par hasard. Le titre, c'est « Demain de maître, partition autographe de la Bibliothèque nationale de France, trésor de la musique classique ». C'est un article qui est paru le 2 décembre 2018. De Marc-Antoine Charpentier à Pierre Boulez. Boulez ou Boulez, qu'on prononce?
Boulez.
Boulez, hein, ouais. ensemble, oui. Cette publication luxueuse de partitions manuscrites venant de la Bibliothèque nationale de France sont de la richesse du département de la musique sous l'autorité de Mathias Auclair. Conserver un manuscrit autographe du 17e et 18e siècle n'est légitime que si la partition n'a pas été imprimée, nous dit Mathias Auclair, dont le texte introductif, passionnant, retrace l'évolution du statut de l'autographe et l'enrichissement pardon, progressif du fonds de la Bibliothèque nationale de France. Il faut attendre la seconde moitié du 18e siècle avec le développement des catalogues thématiques et la part active des premiers collectionneurs pour que le manuscrit acquiert une importance supérieure avant de devenir œuvre à part entière au 19e siècle, puis objet de patrimoine national. Donc on parle ici de partitions qui ont été écrites par le compositeur lui-même à la main, manuscrite, là,
non
pas une imprimerie. Le culte rendu au compositeur, Beethoven notamment, élève la valeur du document autographe au stade de relique, voire d'objet sacré. C'est avec cette vénération que Pauline Viardot conserve l'autographe de Don Giovanni qu'elle léguera avant sa mort à la bibliothèque du conservatoire. Cette dernière deviendra d'ailleurs la première bibliothèque musicale de Paris après le legs important du collectionneur privé Charles Malherbe. Il avait, en 1900, à l'occasion de l'exposition universelle, fait un appel à manuscrits à plus de 700 compositeurs internationaux. Alors que les bibliothèques d'Allemagne et d'Angleterre entreprennent des éditions monumentales, fortes des collections d'autographes acquises et recensées, se crée en France sous l'occupation, en 1942, le département de la musique de la Bibliothèque nationale, s'adjoignant les collections musicales de l'opéra et du conservatoire. Les fonds les plus précieux, les autographes notamment de la bibliothèque du conservatoire, y sont alors déplacés. Donnant un aperçu global de la collection, l'ouvrage s'articule en 6 parties respectant la progression chronologique avec un chapitre spécifique consacré à l'opéra au 19e siècle. Ces pages autographes d'œuvres le plus souvent célèbres, genre Symphonie fantastique de Hector Berlioz, Carmen de Georges Bizet, Boléro de Maurice Ravel, etc., offre à des degrés divers des renseignements sur la genèse de l'œuvre et les étapes de l'écriture. Tel cet unique autographe complet de Johann Sebastian Bach, une cantate écrite à la hâte sur un papier grossier, sans soin ni aucune indication de jeu, qui fera sans doute l'objet d'une seconde copie pour l'exécution, bien entendu.
Ben oui, oui.
Mais j'imagine, c'est un peu comme des compositeurs plus modernes qui vont écrire quelque chose rapidement sur une serviette de table d'un resto. Puis c'est cette œuvre-là qu'on va conserver, dans le fond. Ces pages manuscrites s'accompagnent d'une biographie du compositeur, d'une notice sur l'œuvre choisie et d'une abondante iconographie puisant à de multiples sources. 34 partitions autographes au total et une seule compositrice à l'appel. La grande Lily Boulanger et le manuscrit au crayon d'une méticuleuse précision de sa cantate Faust et Hélène qui lui valut le prix de Rome. Les corrections et annotations en rouge de Lily prouvent que l'œuvre a été donnée en concert avant de passer par les mains du copiste en vue de l'édition chez Ricordi en 1913. Reste à savoir combien d'autres grandes dames figurent dans les collections de la Bibliothèque nationale de France sans avoir eu le privilège de partager la vedette avec ces messieurs dans une publication qui n'en reste pas moins précieuse que somptueuse. Donc, c'est un livre qui s'intitule « Trésor de la musique classique, partition musicale du 17e au 21e siècle » sous la direction de Mathias Auclair, Bibliothèque nationale de France, aux éditions textuelles. Donc Serge, on va parler de chansons de Noël.
Oui, j'ai trouvé ça sur Internet. C'est un article du Journal de Montréal avec les liens musicaux. Donc vous pouvez chez vous en lisant ça, écouter en même temps. Alors c'est les 25 meilleures chansons de Noël des 25 dernières années. C'est un article de Marc-André Lemieux du Journal de Montréal. Alors il nous dit « Pas toujours facile d'écrire une chanson originale de Noël ». Plusieurs se sont cassés les dents, mais certains ont réussi. Alors voici une liste des 25 meilleures chansons originales de Noël des 25 dernières années. Alors peut-être que, je pense pas qu'on ait tout le temps dépassé, mais la semaine prochaine, on pourrait peut-être en essayer de finir.
Absolument. On va être encore plus proche de Noël.
C'est ça. Alors une sélection de grands crus effectuée avec l'aide de plusieurs experts, soit Mike Gauthier, Étienne Grégoire, directeur musical de Rythme FM, Danny Jobidon, programmeur musical à Musique Plus, Musimax, et Monique Giroux, ici à Musique, l'incontournable Monique Giroux. Alors, le premier qu'ils ont classé, c'est le « All I Want for Christmas is You » avec Mariah Carey. Ça date de 1994. Alors, on dit « Cet irrésistible hymne à Noël nous rappelle que derrière cette tenue de Barbie, Mariah Carey possède de redoutables cordes vocales. » Reprise à toutes les sauces depuis sa parution, dont une malheureuse version avec Justin Bieber, All I Want for Christmas is You, que Miss Carey a coécrit avec Walter Afanassiev, a connu un regain de popularité en 2003 grâce au film Love Actually, une grosse bouffée de bons sentiments. Ensuite, Boom Boom, Merry Little Christmas, Maryse Letarte en 2008. Extrait du premier disque de Noël de Maryse Letarte, son deuxième apparu cette année, Boom Boom est destiné à devenir un classique du temps des fêtes. Impossible de résister à cette pièce biblique, Hold Me in Your Arms, mon chéri. Maryse a vraiment révolutionné le genre, indique Monique Giroux, animatrice à Ici Musique. Même les plus grincheux craquent pour ses chansons de Noël. Douce, contemporaine et cool, la mélodie accroche un sourire au visage. Un incontournable, selon le programmateur musical à Musique Plus, Musimax, Danny Jobidon. Ensuite, un troisième, « Joyeux Noël et Bonne Année », Villeray, 1993. C'est un groupe.
Oui. Villeray, oui. Je ne connais pas, non, honnêtement, je ne connais pas moi non plus.
Alors on dit, « À Noël, la modération a bien meilleur goût, surtout en musique. Dotée d'une mélodie accrocheuse, cette chanson du duo montréalais, Villeray respire le bonheur en évoquant des plaisirs simples d'hiver. » L'école est finie, merci. On sort nos patins, on sort nos skis, chante Stéphane Tremblay et Éric Sénécal. Tout pour retomber en enfance avec ces chansons-là. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on en aurait quelques-unes de prêtes?
On en a quelques-unes. En fait, messieurs, je vous donne le choix. Ma sélection est pour le deuxième titre, soit Maryse Letarte et Boom Boom.
Allons-y.
Elle a fait une version française et dans l'article, il est question de la version anglaise. Oui, alors, qu'est-ce qu'on aimerait mieux entendre? J'ai les deux de paquettes sous la main.
Bon, je vais laisser choisir, Serge, c'est votre article. Alors,
laquelle serait la plus.
C'est la même musique pour les deux. C'est seulement
les deux. Allons-y avec la française.
Allons-y avec la version francophone, Maryse Letarte, Boom Boom.
Thank you.
Dommage qu'on ait pas eu, qu'il n'y ait pas une caméra, parce que vous aurez vu sautiller sur... Vous l'avez aimé, celle-là,
oui,
Daniel?
Oui, quand même. Non, j'avais déjà entendu, je connaissais, puis je trouve que la version francophone est intéressante. Mais je trouve que c'est très joli comme chanson. Je trouve que ça ne sonne pas vraiment chanson de Noël, peut-être à cause de nos vieux clichés. Ben ouais. Je trouve que ça sonne plus comme une chanson d'émission pour enfants. Mais on aurait juste à ajouter des grelots un peu et ça deviendrait une chanson de Noël parce que là, on verrait les flocons de Noël.
C'est sûr qu'on est loin de White Christmas, les anges dans nos campagnes.
Ouais, ouais. Mais quand même, toute une... Bon, on a plusieurs années de préjugés là-dessus. Donc, je vais vous parler d'un musicien qui a ravi le public du métro de la Place des Arts à Montréal. J'imagine que vous avez entendu parler.
Oui.
Célèbre violoncelliste Yo-Yo Ma, qui, dans le fond, a son nom, c'est presque le nom d'un cadeau de Noël pour enfants aussi, un yo-yo. Un musicien de rue au talent inhabituel a enchanté le couloir de la station de métro Place des Arts à Montréal samedi. Le violoncelliste de renommée mondiale, Yo-Yo Ma, a ravi la foule rassemblée pour un bref concert gratuit d'une vingtaine de minutes. Âgé de 63 ans, le virtuose a joué à la fois seul et accompagné de poètes locaux avant de conclure sa prestation en invitant le public à chanter avec lui les paroles de la chanson qui, pour lui, signifie Montréal. Et devinez laquelle? Une chanson qui signifie Montréal pour Yo-Yo Ma.
Ah, je sais pas.
Non. Alléluia, de Leonard Cohen.
Ah oui?
Oui, oui. Ah. Je ne sais pas où
ben oui.
Peut-être parce que le compositeur est un Montréalais. L'événement co-organisé par la société de divertissement Lembas Works a été présenté comme un moyen d'explorer les connexions et les déconnexions dans la vie contemporaine. Le violoncelliste sino-américain était assis sur une chaise de plastique et souriait en saluant la foule alors qu'il jouait devant un écran noir et blanc. Le public était assis au sol ou agenouillé dans une section délimitée par des cordons de sécurité sur le quai. Les usagers du métro continuaient leur va-et-vient à quelques pas seulement du musicien, encouragés à circuler par les autorités de la Société des Transports. Ça devait être un peu moins drôle.
Oui.
Des poètes ont été invités à lire leurs œuvres sur les trames musicales du violoncelliste et d'autres sons préenregistrés, dont des chants d'oiseaux agrémentaient la prestation. Parlant couramment le français, Yo-Yo Ma a invité le public à contempler la musique et la manière dont elle interagit avec les sons urbains et ceux du métro au loin. La musique du métro, tout ce qui est dans la ville, les cloches des églises qu'on a écoutées, tout ça nous unit, a-t-il mentionné en français à la foule. Il a fait un signe de tête
Ça porte pas chance d'être assis dans la chaise, Isabelle, hein?
Ouais, c'est peut-être ça. Je me demandais pourquoi, quand je suis ici, plus de difficulté à articuler. On la salue en passant. Elle devrait être avec nous la semaine prochaine. Donc, je continue. Il a fait un signe de tête à son entourage et a noté que le transport en commun, comme la musique, est une expérience unificatrice. On peut voir ça comme ça.
Oui. Mm-hmm.
Le concert du violoncelliste né à Paris faisait partie d'une journée d'action visant à explorer le thème de la culture et de son rôle dans l'humanisation des technologies. Les autres événements au programme de sa journée incluaient une discussion sur les effets de la musique sur le cerveau avec des chercheurs en intelligence artificielle et une projection de films explorant la manière dont la technologie et les médias peuvent accroître la place des voix autochtones au Canada. Parmi le public, Josiane Lefebvre et Annick Filion, qui ont toutes deux vu Yo-Yo Ma en concert en salle, ont souligné le caractère inusité de ce récital hors du cadre habituel. Annick Filion, elle-même violoncelliste amateur, estime que l'activité visait d'abord le grand public, ce qu'elle considère comme une bonne chose. Ce que j'ai trouvé touchant, c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants derrière lui, de nombreuses familles et même quelqu'un qui avait apporté son violoncelle, a-t-elle commenté. Je ne sais pas si c'était pour le faire autographier ou pour jouer peut-être avec Yo-Yo Ma, mais... Josiane Lefebvre, qui enseigne la musique, a noté que d'entendre une pièce de Bach composée au 17e siècle dans un métro moderne résumait parfaitement bien le message d'interconnexion que voulait partager Yo-Yo Ma.
Thank you.
Et donc, Serge, on va continuer avec les chansons de Noël des 25 dernières années, faut-il le préciser.
Des 25 dernières années.
Parce qu'il y en a quand même plusieurs autres qu'on pourrait écouter, mais qui sont moins récentes.
Mm-hmm. Alors, le quatrième choix, Cold December Night de Michael Berub...
Michael Bublé,
merci. En 2011, cette accrocheuse ballade, écrite par Michael Bublé, Alan Chang et Bob Rock, est une des raisons pour lesquelles le disque de Noël du crooner canadien s'est vendu à plus de...
Ben, plusieurs copies, hein.
3,4 millions d'exemplaires aux États-Unis seulement.
Ben, c'est payant, en fait, de la musique de Noël quand même, hein.
Ouais. Et c'est marqué « grelot inclus
». Ah, voilà, voilà, c'est pour ça que ça s'est vendu beaucoup.
Ouais. Et... En cinquième position. Oh, celle-là, là, si jamais on l'entendait aujourd'hui, mon Dieu, que je serais content. Je vais juste dire ça comme ça en passant.
Bon, un message subliminal à Jean-Sébastien.
C'est Nono Noël de RBO, 1992. Marqué avec les titres que je vais vous lire, c'est peut-être pas évident. Rock et Belles Oreilles a aussi chanté les joies de Noël. Sur une musique de Gaétan Essiambre, Guy Lepage, Yves Pelletier, André Ducharme, Bruno Landry, Chantal Franck, aligne les rimes signature RBO. Parmi nos préférés, citons « Ma tante Aline est dans le sud pour tromper sa solitude ». C'est celui-là qui est le prochain qui est un peu « 3 000 $ pour 8 journées, c'est juste là qu'elle s'est faite fourrer ». Je sais bien qu'évidemment,
non, on va être obligé de censurer ce bout-là.
Sixième, « The Prayer », Céline Dion et Andrea Bocelli en 1998. Mm-hmm. Ça devait être assez impressionnant. Extrait du disque de Noël anglophone de Céline Dion, « These are special times », cette somptueuse ballade marie pop et musique classique avec doigté. Sacrée meilleure chanson originale aux Golden Globes de 1998, tirée du film « Quest for Camelot », The Prayer a aussi été nommée aux Oscars. On dit que c'est grandiose. Jean-Sébastien?
Dans les parties de bureau, on entend chanter les guirlandes. Dehors, les lumières clignotent pendant que les secrétaires grignotent. Avec une de mes secrétaires, je vais commettre l'adultère. Ma femme n'est pas invitée à danser tout nu dans un autre party. D'acheter des cadeaux magasinés en bas de zéro. En bas de zéro, c'est bien maudit, surtout sur la carte de crédit.
Hey, hey, quand tu vas t'acheter un sapin, t'acceptes de t'en faire passer un. Tu le décores, il est aux anges, mais c'est pas long qui t'au vidange.
Alléluia, les hommes chantent à quoi belle femme. Pour affronter la bourrasque, tout le monde a apporté son flasque. C'est la fête du petit Jésus, mais même le petit Jésus s'en rappelle plus.
Solo!
Après c'est l'échange de cadeaux, tu fais semblant d'être aux oiseaux. Quand tu reçois de ton beau-frère une paire de gants et je te l'aime.
Ma tante Aline est dans le sud pour tromper sa solitude. 3 000 $ pour 8 journées, c'est juste là qu'elle s'est faite pourrir.
On se bourre dans les pretzels.
Noël,
Alors, avis aux oreilles chastes, mon choix s'est arrêté sur Michael Bublé, mais Serge nous a convaincus à écouter cette pièce classique de Rock et Belles Oreilles.
Ah, je pensais que c'était Michael Bublé
ben
qui chantait aussi, en français.
Ouais. Ben bon, c'est au début. Là, au début, oui.
Ah,
là.
Quand même. Hein? Non, on les reconnaissait difficilement à RBO au début, je trouvais. Oui, c'est juste vers la fin, on reconnaît clairement la voix de Guillaume Lepage pour la matante qui va dans le sud. Mais bon, on n'a pas eu le temps de censurer.
Quand même, en 1992, c'était assez, c'était déjà...
Oui, c'était un petit peu... Mais bien avant ça, Charlebois avait dit des choses pires que ça.
Les cyniques aussi, t'as pas barré.
C'est une chanson de Noël, c'est juste cute. Accepte tout à Noël. J'ai trouvé un article hier dans le journal de 24 heures, puis ça m'a un petit peu impressionné, je vais vous lire. J'espère que c'est pas un canular... Un adolescent meurt électrocuté par ses écouteurs.
Voyons.
Qui a dit que ça pouvait être dangereux écouter de la musique? Je vais vous le lire parce que ça m'a...
Ça concerne-tu nos écouteurs qu'on a?
J'espère que non. Effectivement, on a des écouteurs sur la tête présentement. Alors, on vit dangereusement.
À moins que Jean-Sébastien ait le doigt sur un piton.
J'ai un buzzer, oui. C'est pas ce que je dis, là.
D'accord. Je sais qu'il y a un bouton siège éjectable de son côté. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, ça dit, un adolescent de 16 ans est décédé en Malaisie après qu'il eut été électrocuté par ses écouteurs qui étaient branchés dans son téléphone, qui était lui-même branché dans une prise de courant. Là, d'après moi, il manque une étape. Le téléphone branché dans une prise de courant, ça me surprendrait. Branché dans un chargeur qui, lui, est branché dans une prise de courant. Mmh. Ça a plus d'allure. Mais bon, même à ça, le courant passait directement. La semaine dernière, Heidi Hazar Zarin a été retrouvée sans vie par sa mère, selon le New Straits Times. Du sang coulait de son oreille. Une autopsie a permis de découvrir que sa mort a été causée par une électrocution. La marque et le modèle exact de l'appareil restent à déterminer. Donc, on ne sait pas encore si on est en sécurité avec notre téléphone. Or, le frère de la victime a confirmé qu'en manipulant le téléphone, il a senti une décharge électrique. Le chargeur était donc peut-être défectueux. Il s'agit du quatrième décès à la suite d'incidents du même genre cette année. C'est la première fois que j'en entendais parler, peut-être que vous aussi, mais ça me dirait que c'est pas la première fois que ça arrive. Donc, première chose que je ferais, moi, c'est que quand le téléphone est sur la charge, on ne branche pas nos écouteurs dans nos oreilles par sécurité. Mais je suppose que ça doit être un cas sur je ne sais pas combien de millions. Je ne crois pas que le risque soit si élevé. Là.
S'il y avait une épidémie, on le saurait.
Mais en tout cas, c'est à suivre. J'espère qu'on va avoir un jour des nouvelles de ça, en savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Peut-être un problème électrique dans le chargeur lui-même, un problème électrique à la maison. Je ne sais pas, mais il y a du courant qui a passé directement de la prise, qui s'est rendu jusqu'aux écouteurs. Et ça a électrocuté le pauvre jeune homme. Et c'est plate parce que c'est sur une nouvelle triste comme ça qui m'a fait la première partie seulement de l'émission, quand même. On vous revient dans quelques minutes avec d'autres articles. On va continuer la suite des 25 chansons de Noël et j'ai d'autres choses.
Vous aimez ça? Faut qu'on continue.
Oui, on va continuer. À tantôt. Ici Daniel Lachance au micro de Canal M et on est de retour avec la suite de l'émission Les Voix de service du mercredi 12 décembre 2012. Et Serge, vous allez continuer à nous parler des 25 chansons.
Oui, il y en a. On va en faire quelques-unes puis ils vont rester pour la semaine prochaine.
Oui, bon, bon.
Oui, la semaine prochaine, je vais essayer de trouver peut-être, ben, comme on parlait avant l'émission, peut-être l'histoire un peu là, du Minuit chrétien, de Sabergé-Assemblée.
Oui, d'où ça vient, des vraies chansons de Noël, les classiques de Noël.
Oui, c'est ça, oui, oui.
Et on pourrait peut-être essayer de regarder aussi, parce que là, on regarde les 25 dernières années, c'est intéressant, mais il y en a quelques-unes auxquelles j'ai pensé tantôt, puis je me dis, ah non, ça fait un petit peu plus qu'à 25 ans. Mm-hmm. Je pense par exemple à la chanson Simply Having a Wonderful Christmas Time de Paul McCartney. Mm-hmm. Celle aussi de suite au Live Aid, là, il y en avait eu une chanson de Noël. Ouais. Do They Know It's Christmas Time at All? En tout cas, des chansons comme ça qui datent d'un petit peu plus que 25 ans, mais pour moi, c'est des chansons de Noël modernes quand même.
Ah ben on pourrait séparer ça.
Oui.
À ce moment-là, moi je peux prendre les plus vieilles là. Puis...
On va vous revenir avec ça. On va essayer de vous trouver quelque chose. Et moi dans cette deuxième partie-là, je vais vous parler de deux choses plus légères. une ville d'Allemagne qui rend un hommage particulier à Elvis Presley. Et je vous dirai pourquoi.
Ben...
Et aussi une nouvelle ligne de vêtements signée Céline Dion. Qui suscite un peu de controverse.
Ah ouais?
Oui, alors voilà. Avec quoi je devrais commencer? Je vais commencer par Céline Dion, tiens. Mm-hmm. Parce que j'avais pas entendu parler de ça. Et quand j'ai vu cet article-là, j'ai trouvé ça un petit peu plutôt rigolo, mais je vais en parler. C'est un article que j'ai pris dans lefigaro.fr, qui est paru le 3 décembre. Le titre, Céline Dion soupçonnée de satanisme.
Ah, mais oui, j'avais lu le titre.
Avec sa ligne de vêtements pour enfants, Célinununu. La chanteuse a lancé...
Comment,
Célinununu. Et vous allez voir pourquoi tantôt ça s'appelle comme ça. La chanteuse a lancé une ligne dite non-genrée pour les moins de 14 ans. Elle veut casser les codes vestimentaires des filles et des garçons. Un exorciste américain y voit la marque du malin. Et selon la presse ultra-conservatrice, certains motifs seraient aussi des symboles Illuminati. Hey, n'importe quoi.
Oh, aïe, aïe.
Serait-elle habitée par Satan? Célinununu est-il un cri de possession? Hey, ça va mal le matin. Ça va pas bien. La ligne de vêtements lancée par Céline Dion en collaboration avec la marque israélienne Nununu, donc Céline et Nununu composés ensemble, a valu à la chanteuse québécoise une accusation de satanisme par le père John SF. L'exorciste soupçonne la musicienne d'appartenir à un esprit organisé visant à tromper les enfants. C'est dur de lire ça sans rire. Le très conservateur journal américain National Catholic Register s'est fait écho le 21 novembre de cette dénonciation d'impiété. La ligne de vêtements pour enfants et bébés s'affiche non-genrée. Donc, on appelait ça unisex quand j'étais plus jeune. Ça existait déjà. Dans les années 70, il y avait des boutiques unisex. Donc, les jeans, les gilets, n'importe quoi, c'était pour... Bon. Donc, leggings, blousons, vestes peuvent être aussi bien portés par des garçons que par des filles. Ils arborent des signes géométriques, des lettres ou une croix grecque, le logo de la marque, comme motif. Sur les réseaux sociaux, Céline Dion lance des slogans, la nouvelle marque qui n'étiquette jamais. Laissons les enfants choisir qui ils sont. Bon, c'est des choses quand même assez banales. Je suis convaincu que la façon dont cette affaire de genre s'est diffusée est satanique, s'indigne John SF. Il y en a seulement deux que Dieu a fait, affirme-t-il. Patty Armstrong, la journaliste du National Catholic Register, fait également part de ses soupçons. La ligne de Nununu en elle-même est très dérangeante et comprend étrangement beaucoup d'éléments identiques à celle censée être le fruit de la collaboration avec Céline Dion. On a l'impression qu'ils ont récupéré quelques idées passées et juste collé son nom dessus. Le soupçon de possession affleure. Pour le lancement de l'entreprise, la superstar a publié une vidéo promotionnelle d'une minute et demie dans laquelle elle pénètre de force dans une nurserie. J'ai pas vu la vidéo, mais je suis sûr que c'est pas si hard que ça.
Non.
Une poudre magique lui permet d'effacer les vêtements roses et bleus des nouveaux-nés et de les remplacer par des vêtements unisexes noirs et blancs. Un des pulls est signé New Order. Ouais, puis bon. C'en est trop. La journaliste est inquiète. Les postures des enfants dans le catalogue sont bizarres. Un des modèles est maquillé avec un visage de squelette. Et elle y a aussi décelé de larges yeux Illuminati. C'est quoi des yeux Illuminati? Je sais pas, là, mais je voyais pas ça.
Il y a beaucoup d'émissions actuellement sur Historia, là, sur les extraterrestres. Et on parle des Illuminati, qui seraient des illuminés, là, de, bon. des élus de, d'une autre civilisation. Enfin, je résume ça bon. En gros. Là.
Donc, c'est dangereux. Tout ouais, cela ben... est fait pour l'argent et il y a de la division qui s'ensuit. Ce sont là les marques du démon, analyse de son côté le religieux. Céline Dion est-elle possédée par le diable? Il ne nous appartient pas de répondre. Une chose est sûre, l'interprète dont on ne change pas s'apprête à faire son grand retour en grâce après des problèmes de santé qu'il avait obligé à quitter un temps la scène. En tout cas, avis à tous ceux qui auraient envie de donner en cadeau des vêtements de cette ligne. Informez-vous un peu sur les croyances des parents avant pour éviter toute controverse. Donc, Serge, est-ce qu'on peut continuer la liste des 25...
Absolument,
on dit-tu les 25 meilleures chansons ou les plus connues?
Ben, le
ou,
titre, c'est les 25 meilleures chansons de Noël des 25 l'autant. Dernières années.
Bon, OK, on continue dans les meilleures. Voilà.
Alors, en septième position, Underneath the Tree, de Kelly Clarkson, 2013.
Ah.
Ouais. Alors, une seule écoute et vous l'aurez en tête pendant des jours. Ah. Écrit par Kelly Clarkson et Greg Kirsten, ce verre d'oreille apparaît sur Rapid in Red, le premier album de Noël de celle qui, en 2002, gagnait la première édition d'American Idol.
Ah, OK.
Ah, 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 ah. En huitième position, combien de Noël? Tricot Machine. En 2008.
Je me souviens vaguement de Tricot Machine. On n'entend plus parler d'eux, me semble, depuis un bout.
La recette de Tricot Machine fonctionne à plein régime sur combien de Noël? Une interprétation candide juxtaposée à une thématique moins hop la vie, soit la douleur ressentie le 25 décembre après la perte d'un être cher pendant les fêtes. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, en neuvième position, Christmas Calling, Jonas et Marie-Mé en 2015. Un an après Jamais trop tard, Jonas et Marie-Mé unissent de nouveau leur voix sur cette pièce juste assez langoureuse. Écrite par Jonas et adaptée en français par Nelson Mainville, Christmas Calling enveloppe et prouve que Marie-Mé et Jonas, malgré leur racine rock, peuvent faire preuve d'une belle retenue vocale. On sent déjà un buzz, indique Étienne Grégoire, de Rythme FM. Alors, Jean-Sébastien, qu'entendrons-nous?
Alors, nous allons ouïr la formation Tricot Machine. Et la pièce dont il est question, Combien de Noël? C'est la première pièce de leur album qui s'intitule Tricot Machine chante et raconte le 25 décembre. Mm-hmm.
Combien de Noël aurons-nous encore ensemble? Combien de soleil avant que la terre ne tremble? Combien de mémoires pour les souvenirs d'hier? Combien de tempêtes apaiseront nos hivers? Combien de chansons transformeront silence? Combien de maisons célébreront l'importance? Combien de lumière dans les yeux de ceux qui aiment? Combien de bonheur dans le cœur quand on espère? Thank you. chansons transformeront nos silences. Combien de maisons célébreront l'importance? Combien de lumière dans les yeux de ceux qui aiment? Combien de bonheur dans le cœur quand on espère?
C'est vrai que le texte est quand même assez triste. Mais ça fait partie de la réalité aussi.
Ben, il y a ça, ben oui, c'est
effectivement,
sûr.
Effectivement, ça peut être triste pour certaines personnes. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de fêtes de Noël qui débutent, là, même à partir du début décembre. Mais même dans la période de Noël, il y a des funérailles aussi. La vie continue et la mort aussi. Donc, dans un sujet un peu plus léger, pour revenir à nos affaires, des feux de circulation à l'effigie d'Elvis Presley en Allemagne.
Oh là là!
Eh oui, ça a vraiment piqué ma curiosité, alors c'est pour ça que je vous l'ai apporté ici. J'ai vu ça dans le parismatch.com, publié le 8 décembre, dans la ville de Friedberg. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, je ne suis pas très bon en allemand, mais bon. Dans la ville de Friedberg, en Allemagne, trois feux pour piétons à l'effigie d'Elvis Presley ont été installés. À Friedberg, quand le feu passe au vert, c'est « now or never » qu'il faut traverser. En passant « Now or Never », petite parenthèse, avez-vous déjà remarqué « It's now or never », la mélodie, c'est exactement la même mélodie que « O Sole Mio ».
Ah oui?
Juste changer les paroles. Écoutez les deux, c'est exactement la même chose. Il a mis des paroles en anglais, mais exactement ça. Voilà, donc, la petite ville allemande où Elvis Presley effectua son service militaire entre 1958 et 1960 vient de peaufiner son statut de lieu culte du King de Las Vegas dans le pays en installant trois feux pour piétons à son effigie. En vert, on y reconnaît la silhouette du chanteur des tubes tels que Love Me Tender ou Return to Sender grâce à son déhanché légendaire, tandis qu'en rouge, il prend la pose derrière un pied de microphone. Les feux ont été installés sur une place qui porte depuis 1995 le nom de la star décédée à Memphis en 1977. Ça fait déjà plus de 40 ans.
Ben ouais.
Car cela fait déjà longtemps que Friedberg, qui a accueilli une caserne de l'armée américaine, a compris quel filon il pouvait représenter le culte du King. Une statue sur un rond-point à l'entrée de la ville donne le ton. « Foyer militaire d'Elvis Presley », peut-on y lire derrière une représentation du rocker, guitare posée au pied. « Elvis a une place particulière ici, et donc il est honoré », explique à l'agence France-Presse une habitante, Heidi Hübner, après avoir pris les nouveaux feux en photo avec son portable. « Elvis fait partie de Friedberg », renchérit une autre, Kim Roder, avant de traverser la rue de cette cité proche de Francfort. Si la base militaire de l'inventeur du Jailhouse Rock était à Friedberg, il habitait à Bad Nauheim, à quelques kilomètres, où des fans déposent encore aujourd'hui régulièrement des bougies et des petits cadeaux pour leur idole devant un mémorial. C'est d'ailleurs ici que le roi du rock, mort de manière inattendue à 42 ans, a rencontré sa femme Priscilla. Ça, je ne savais pas ça. Je ne sais pas si c'est pas une Allemande quand même. Il l'a rencontré là par hasard.
Non, il me semble que non.
En tout cas. Les noces avaient été célébrées en 1967 aux États-Unis, mais le mariage n'a duré que 6 ans. Une association à la mémoire d'Elvis est active depuis 1998 dans les deux villes et organise tous les ans une fête d'anniversaire d'Elvis ainsi qu'un festival Presley rassemblant des milliers de fans. Friedberg n'est d'ailleurs pas la première ville allemande à installer des feux originaux pour rendre hommage à un habitant célèbre. Bonn s'est notamment offert le visage de Beethoven à quelques intersections. Et Trèves, celui de Karl Marx, pour le 200e anniversaire du philosophe barbu. Mais Karl Marx, c'était-tu un des Marx Brothers, ça?
C'est lequel?
Il y avait Groucho.
Non, Daniel. Vous avez besoin d'un petit cours, là, vous.
Je trouve que ses autres frères n'aient pas aussi le même hommage. Donc, et plusieurs villes ont également affiché des couples d'un même sexe à l'occasion des journées de Gay Pride. À Berlin, la plus connue de ces figurines des feux de circulation est anonyme. Là, je ne sais pas si je vais être capable de le prononcer comme il faut. Lampelmannchen, ou petit bonhomme des feux, est vêtu d'un large chapeau et originaire de l'ancienne République démocratique d'Allemagne. Il a conquis sa popularité dans les années 1990 après avoir survécu à la réunification du pays en étant porté par l'ostalgie. On appelle ça, là, ouais, j'avais ouais, jamais ouais. vu ce mot-là, mm-hmm. mais la nostalgie du temps de l'Allemagne de l'Est. Il est aujourd'hui décliné en bonbons, porte-clés ou tasses à café.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. Blitzen, blitzen, all his reindeer pulling on a rein. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight.
Donc Serge, il nous reste quelques chansons de Noël.
Oui. Alors, les mots tendres, Marc Hervieux et Brigitte Boisjoli en 2011. Un beau duo. Tiré du disque Un air d'hiver, cette balade juste assez sensuelle profite des envolées vocales de Brigitte Boisjoli. La chanteuse ajoute une bonne dose de personnalité au titre écrit par Frédéric Baron et Daniel Mercure. En deuxième position, That's Christmas to Me, Pentatonix.
Oui, je connais ce groupe.
2014. Mm-hmm. Tiré du deuxième album de Noël du quintet américain Pentatonix, cette chanson a cappella, c'est a cappella, titille notre fibre nostalgique. Écrite par trois des membres du groupe, That's Christmas to Me. To me, OK, c'est une erreur. That's Christmas to me, charme avec ses harmonies vocales réglées au quart de tour. 13e position, 12 jours de Noël, Les méchants macros en 2009.
Ah, ça me dit rien.
Oui, ça a l'air d'être assez rigolo. Coup de cœur de Monique Giroux, cette relecture du célèbre classique Marie Country Rock et Stomp Acadien. Ils refont les 12 jours avec des recettes de bouffe des maritimes, explique Monique Giroux. Ils parlent même d'un gros mess de poutine râpée. Bon. Avec leur accent des îles, c'est irrésistible. Jean-Sébastien, qu'avez-vous choisi?
On va écouter Marc Hervieux avec Brigitte oui. Boisjoli. Mm-hmm.
Paroles gourmandes sur le bout de la langue qu'on cherche à retrouver. Si tu me les demandes avec amour, je t'en donnerai.
Fondant,
chocolat,
au craquant,
au nougat,
caramel.
C'est si bon
Noël.
Des mots doux pour séduire, se laisser étourdir, qui font se rapprocher. J'en ai tant à t'offrir, je suis même prêt à t'en inventer.
Fais-moi tout découvrir, des nouveaux, des souvenirs, même les plus démodés.
Souvent te font succomber.
Fondant,
chocolat,
au craquant,
au nougat,
caramel.
C'est si bon Noël. Depuis quand?
Depuis l'enfance, je suis comme ça.
Comme moi.
C'est un péché mignon.
Délicat.
Je dirais même rose bonbon.
Oui, parfois.
Une vraie pomme d'amour.
Tentation.
Je fonds à tous les jours.
La passion.
Ça peut jouer des tours.
Mais c'est bon.
Aussi
t'y prendre, allez viens te détendre, nous pouvons encore. danser le festin de décembre qu'avec amour j'ai préparé. Si bon Noël, si bon Noël.
Ah, oh, c'est vrai que c'est bon. Hein?
Surtout le chocolat.
Oh non, non, le caramel, le caramel.
Le sucre crème.
De qui?
De ma grand-mère.
Évidemment.
Ça, c'est bon. Hein?
Toujours le meilleur, ça. Bon, je me suis fait moi-même jouer un tour. Je ne voulais pas entendre les méchants macros avec 12 jours de Noël pour ne pas avoir l'eau à la bouche avec leur poutine et autres plats des maritimes. Mais bon, c'est raté parce qu'il était question de chocolat, pommes, caramel et autre chose qui ouvre l'appétit.
Et on sait que vous aimez beaucoup le chocolat, Jean-Sébastien. Hein?
Oui, oui, ne vous gênez pas, Serge, pour continuer à m'en rapporter. Bah, c'est ça. Il trouve toujours preneur.
Donc, la semaine prochaine, les cadeaux de Noël.
Des chocolats, oui.
Donc, Serge, on continue quand même. Il ben reste quelques-unes.
Oui. J'aimerais dire à nos, aux gens qui nous écoutent, vous ne voyez pas, vous n'avez pas de caméra en studio, mais Daniel, vous êtes vraiment un fan. Hein? Vous participez beaucoup. Vous allez vous dandiner.
Il faut que je bouge un peu. Je n'aime pas rester assis. Ouais.
C'est parce que là, j'ai eu une image, là, une image qui me vient. Ça doit être quelque chose d'assister à un spectacle avec vous.
J'enverrai un lien YouTube.
Mais est-ce que vous seriez du genre à vous rouler à terre, vous déchirer votre t-shirt, vous arracher
les
cheveux?
Non, pas tant que ça, non.
Non,
non, j'ai une certaine retenue quand même.
Bon, d'accord.
Pas dans un show de Noël.
Alors, continuons. En 14e position, Flocon Blanc du groupe du duo Blé en 2013. Oublions le vidéoclip réalisé à petit, petit budget. Cette chanson du duo québécois Blé allie humour et mélancolie. Écrite par Thierry Doucet et Miro Belzile, elle figure parmi les choix du directeur musical de Rythme FM. C'est un son différent, un son d'aujourd'hui, commente Étienne Grégoire. En 15e position, Christmas Lights de Coldplay en 2010. Mm-hmm. Du Coldplay tout craché, après une intro minimaliste au piano, embarque des violons, des chœurs et surtout un refrain ambitieux chanté avec conviction par Chris Martin. Lancé en décembre 2010, En version numérique uniquement, Christmas Lights annonçait la direction musicale du 5e album du groupe Milo Xyloto. 16e position, Believe de Josh Groban en 2004. Cité dans trois prestigieuses cérémonies de remise de prix, les Oscars, les Grammy, les Golden Globes, cette ballade tirée du film d'animation The Polar Express met de l'avant la voix puissante et juste de Josh Groban. Fait à signaler, elle a été composée par Glenn Ballard, mieux connu pour avoir aidé Alanis Morissette à écrire les chansons du disque Jagged Little Pill. Mm-hmm. Un virage à 180 degrés, il va sans dire. À qu'entendrons-nous?
Alors, on y va avec la formation britannique Coldplay.
Ah!
Christmas night, another fight, tears we cried a flood. Got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Some drunken
doesn't really feel like Christmas at all.
C'est ce qui met fin à l'émission Les Voix de service du mercredi 12 décembre. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Mm-hmm. Merci beaucoup à Serge Bradet pour ses articles intéressants sur les chansons de Noël des 25 dernières années. Mm-hmm. Merci beaucoup Jean-Sébastien La Liberté à la mise en onde. Et c'est Daniel Lachance qui vous dit on se retrouve mercredi prochain avec aussi Isabelle Falardeau. Mm-hmm. Et dans quelques instants, retrouvez Hélène Denis pour l'émission Le quotidien des quotidiens.